Ça semble un peu curieux, mais en fait, on peut considérer que, à partir du XIVe, on entre dans l'époque moderne, au sens historique du terme, quoi. Enfin, on va quitter le Moyen Âge et on va entrer dans l'époque moderne. Mais avant ça, je voulais effectivement donner quelques contenus. Je les ai un peu esquissés. Je les ai esquissés surtout dans les réponses, aux questions des deux dernières, visioconférences. Et alors, je voudrais revenir là-dessus. Ce qui fait le cœur de la morale de saint Thomas, et en fait, on pourrait dire, du coup, ce qui fait le cœur de la morale chrétienne tout court, hein, si je résume en disant que la morale catholique, c'est la morale de saint Thomas, mais enfin, c'est quand même le dispositif central, hein, alors, qu'on ne finit pas de commenter, finalement. Du point de vue de la théologie. Ce qui fait le cœur de la morale de saint Thomas, ce sont les vertus. Alors, c'est très, très important, très important. C'est donc ce qu'on appelle un eudémonisme. Hein. Le mot savant pour dire morale des vertus, c'est eudémonisme. Et on a pu dire que saint Thomas était un eudémonisme chrétien, c'est-à-dire bon, une forme chrétienne de morale des vertus. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, il faut bien, c'est très important, hein, parce que ça veut dire que saint Thomas, c'est pas d'abord une morale, à mon avis, et puis l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, hein, saint Thomas, par exemple, c'est pas d'abord une morale de l'être. Hein, on pourrait penser à Aristote, le premier moteur, immobile, etc. Non, c'est pas d'abord une morale de l'être, même si saint Thomas, on l'a vu, se sert beaucoup d'Aristote, c'est d'abord une morale des vertus. Alors, empruntées aux Grecs, ce sont les vertus grecques baptisées, comme on dit rapidement, mais enfin par saint Thomas, et restructurées et redistribuées par saint Thomas, mais c'est bien une morale des vertus. Qu'est-ce que la... Alors, ce n'est pas une morale de l'acte non plus. Parce qu'une morale de l'acte, c'est si l'acte est bon, je peux le faire. Si l'acte est mauvais, c'est interdit, je ne peux pas le faire, je transgresse et c'est un péché. Pas d'abord ça. C'est ni d'abord une morale de l'être, ni d'abord une morale des actes, parce qu'on passe souvent à l'acte moral. Hein. L'acte moral, c'est dans le catéchisme, c'est dans plein d'encycliques. Et en fait, on s'est éloigné beaucoup de saint Thomas, parce que saint Thomas, ce n'est pas une morale de l'être, ce n'est pas une morale des actes, d'abord, c'est une morale des vertus. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Une vertu, c'est une disposition à agir selon le bien. Un peu vague comme définition, mais enfin, on pourrait se donner une image plus, peut-être plus illustrante, enfin, une disposition à faire le bien, c'est, on pourrait dire que la vertu, c'est le dynamisme, hein, c'est un dynamisme, c'est la musculature de notre vie morale, quoi. C'est-à-dire que il faut comparer la vie morale selon saint Thomas à la vie sportive. C'est une image très parlante, c'est-à-dire, si j'ose dire, une image qui parle, mais c'est l'athlète s'entraîne. Plus il s'entraîne à son sport, plus il est bon dans son sport. Enfin, meilleur il est, pardon, dans son
Oui.
sport. Eh ben, c'est la même chose dans la vie morale. Plus on s'entraîne selon les vertus, meilleur on est. Hein. Donc, la vertu, c'est quand on est par exemple juste, on prend la vertu de justice, on peut prendre la vertu de tempérance, on peut prendre la vertu de prudence, plus on l'exerce, meilleur on est. C'est-à-dire, je prends un deuxième exemple qui a l'air trivial, mais on le trouve dans des. On le trouve souvent pour essayer de mieux comprendre de quoi on parle. Quand on exerce la morale, finalement, c'est un peu comme une boîte à outils. Hein. C'est un peu comme un bricolage. On apprend à se servir des outils morale, donc vertu. Et plus on s'en sert, plus on acquiert une espèce d'expertise, hein, à s'en servir. Et meilleur on est, meilleur on devient. Donc, la justice, on commence à s'en servir, meilleur on devient. La tempérance, on commence à s'en servir, meilleur on devient. La prudence, alors, je dis la prudence parce qu'en plus, la prudence, c'est le traité dans la somme de théologie qui est le plus réussi. Le traité sur la vertu de prudence, c'est un petit bijou de théologie morale. La prudence, on peut le dire autrement. Alors, c'est emprunté aux Grecs directement. Les Grecs, ils appelaient ça enfin, il y a un mot alors qui s'écrit, je le dis par audio, alors il faut l'écrire comme il s'écrit, transcrit du grec, c'est ce qu'on appelle la phronesis. Alors phronesis, c'est P-H-R-O-N-E, accent E, hein, phronesis, S-I-S. La phronesis en grec, alors c'est pas si facile que ça à traduire, on va dire c'est entre la sagesse et la prudence. C'est un peu les deux. Hein, et on voit très bien, bon, on dit souvent sagesse prudentielle. La sagesse prudentielle, c'est pas s'abstenir d'agir. L'homme sage et prudent, il est disposé à agir selon le bien. Donc c'est ça les vertus. Hein. Il faut bien comprendre que les vertus, c'est pas d'abord une morale de maîtrise de soi. Hein. On n'est pas d'abord dans le « je me restreins pour agir, je me contrôle ». Il en faut du contrôle, il en faut de la maîtrise. Mais c'est d'abord une morale dynamique, disposée à agir selon le bien, et plus on l'exerce, meilleur on est. Voilà. Alors, il y a bien évidemment l'architecture des morales, on la connaît depuis le catéchisme, hein, c'est effectivement les trois vertus théologales et les quatre vertus cardinales. Ces vertus ont toute la caractéristique de l'entraînement sportif. C'est vraiment l'entraînement du sportif. Alors, ça ne veut pas dire que saint Thomas ne parle pas de l'acte moral, il en parle très souvent, ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas de l'être. Bien sûr, tout ça, c'est vrai, mais le dispositif central de la morale de Thomas d'Aquin, ce sont les vertus. Et c'est parce qu'on est vertueux qu'on apprend à l'être, n'est-ce pas, qu'on pose des actes moraux. Ça, c'est le cœur. Hein. Le cœur, et peut-être que le cœur du cœur, si on veut vraiment trouver un traité très réussi de la morale de saint Thomas, dans la somme, c'est tout ce qui est dit sur la vertu de prudence, parce que c'est une réussite complète entre l'origine grecque de l'affaire, la phronesis, et puis la manière dont saint Thomas a remanié ce concept de prudence dans l'édifice chrétien des vertus. Ah, ça, c'est très important. Alors, c'est ce qui fait dire à saint Thomas. Alors, saint Thomas parle de l'acte moral, pour le coup. Hein. Mais un acte moral, poser un acte moral, c'est un acte vertueux. Est moral, un acte agit selon la vertu. Et il a même une équivalence. Hein. Il dit l'acte moral et l'acte humain, c'est le même acte. C'est-à-dire, quand on agit de manière conforme à notre humanité, on agit selon la morale. Je dis acte humain, ça a l'air pas grand-chose de dire acte humain, mais il faut quand même savoir que saint Thomas distingue entre l'acte, ce qu'il appelle l'acte humain, et l'acte de l'homme. Acte humain et acte de l'homme. Alors, qu'est-ce à dire? Ça semble être la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que tout acte humain est posé par un homme, mais tout acte posé par un homme n'est pas humain. Je prends la comparaison des tribunaux. Lorsque, au tribunal, on reconnaît, par exemple, une personne qui a une psychopathologie forte, on dit qu'elle n'est pas responsable de ses actes. Eh bien, c'est ce que dit saint Thomas, un acte humain, pleinement humain, c'est un acte qui engage notre liberté, notre responsabilité, notre volonté et notre raison. Ça, c'est un acte humain. Un acte de l'homme, effectivement, c'est une personne humaine qui le pose, mais on n'en est pas responsable. Par exemple, si tu agis sous l'empire d'une drogue, ou si tu agis sous l'empire d'un geste, par exemple, de, de répétition, les gens qui ont des phobies, mettons, hein, qui fait que on devrait faire quelque chose, mais on l'évite totalement parce qu'on en a peur. C'est un acte de l'homme, mais ce n'est pas un acte humain. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à la personne d'être responsable d'un acte. On parlerait volontiers du déterminisme, hein. On parlerait volontiers oui, des déterminismes psychosociaux, des déterminismes tout ce qui pèse, tout ce qui entrave notre liberté. Ce sont des actes de l'homme, mais pas des actes humains. Seul l'acte humain mérite le titre d'acte vertueux et d'acte moral, hein, c'est-à-dire qu'il nous, il nous, il agit selon le bien et selon ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire une liberté, une volonté, une raison en acte, agissant justement, hein. Donc ça, c'est le deuxième point, morale des vertus dans lesquelles les actes moraux s'insèrent. Et alors, très important, je l'ai esquissé dans les réponses aux visioconférences de la dernière fois, très important, l'idée que chez saint Thomas, poser un acte moral, agir selon le bien, c'est, pour prendre l'image, c'est comme l'acte humain est comme un pas posé sur le chemin qui mène vers Dieu. L'acte moral, c'est un pas posé sur le chemin qui mène vers la béatitude. Rappelez-vous ce que j'avais dit sur saint Augustin et sur le point commun avec, heureusement, avec saint Thomas. Nous sommes dans des morales du bonheur en Dieu. Et donc l'acte humain, l'acte moral, c'est pareil, c'est le pas qui nous permet de cheminer vers Dieu. Le sens, est, vous voyez, c'est très connecté, c'est très bon. C'est pas alors les pères de l'Église le disaient comme ça, mais les pères de l'Église le disaient autrement. C'est-à-dire quand pour un père de l'Église, c'est le père de l'Église, c'est plutôt la théologie de l'image. Nous sommes à l'image de Dieu, nous avons perdu, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons perdu la ressemblance par le péché originel, moralement. À chaque fois que nous agissons selon le bien, nous nous rapprochons de l'image que nous avons perdue. Donc, c'est les pères le disaient autrement, saint Irénée par exemple, hein, aurait beaucoup parlé de. C'est une théologie de l'image. Bon, et beaucoup de pères ont repris cette image, de le dire. Hein. Pour saint Thomas, c'est une théologie du chemin, mais on l'avait aussi trouvé le chemin de la patrie céleste en étant des êtres moraux qui agissent selon le bien. Et donc, chaque acte moral, c'est-à-dire libre, responsable, volontaire, hein, est un pas qui nous mène pour retrouver le royaume perdu, d'une certaine manière. Hein. C'est un très vieux schéma de la théologie, hein, qui a un nom un peu en latin, mais qu'on comprend très bien. On appelle ce schéma-là exitus reditus. Exitus, il faut penser à exit, sortir, hein, exirer en latin, sortir. Reditus, 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 revenir. Donc, l'exitus reditus, ça veut dire quoi? Ça veut dire je sors de Dieu, toute créature humaine vient de Dieu, sort de Dieu et retourne. De Sienne dira, nous sommes issus nous sommes issus du désir de Dieu et nous y retournons. Et nous retournons à Dieu en étant des êtres moraux. Voilà. Donc la morale du salut et la morale n'a de sens que insérée dans ce chemin qui mène vers le royaume. Alors, c'est le schéma de Thomas d'Aquin. C'était déjà le schéma des pères, mais c'est le schéma de Thomas d'Aquin, formulé selon ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le dossier scolastique médiéval sous forme de questions, avec donc un usage de la raison beaucoup plus important, beaucoup plus structurant que chez les pères. Cet équilibre trouvé à l'époque de saint Thomas, je vous ai annoncé dans les réponses aux questions, notamment je crois du deuxième groupe l'autre jour, que cet équilibre de Thomas d'Aquin, il est brisé après la mort de saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que les premiers commentateurs de saint Thomas, ce sont, c'est le problème d'un fondateur, tout fondateur est trahi par ses disciples. D'ailleurs, même pour Jésus, ça ne s'est pas passé facilement, hein. Saint Pierre l'a trahi. Alors, pour saint Thomas, c'est la même chose, c'est-à-dire que les premiers commentateurs, les premiers disciples de saint Thomas, après saint Thomas, quelques dizaines d'années après, et a fortiori au XIVe siècle, ont abandonné. Je ne sais pas si c'est conscient ou délibéré, mais on le voit très bien, ont abandonné l'équilibre que saint Thomas avait donné à son travail théologique. C'est-à-dire, peu à peu, et c'est là où ça va, c'est très important pour les moralistes que nous sommes, les moralistes en herbe, après saint Thomas, les théologiens thomistes, pourtant, thomistes, c'est-à-dire les commentateurs de saint Thomas, vont peu à peu casser le lien entre la morale et le bonheur, hein, ou entre la morale et le salut. C'est-à-dire que, ou on peut dire encore, la morale et la grâce. Donc, le lien peu à peu cassé, rompu, défait, détricoté entre la vie morale et l'objectif de la vie morale, à savoir le salut, le bonheur en Dieu. Cette synthèse que saint Thomas avait réussi à faire au XIIIe siècle, où on ne peut pas parler de morale sans parler du don de Dieu, sans parler de la grâce de Dieu, cette synthèse va être démolie, très savamment démolie, mais démolie quand même après saint Thomas. Et là, il y a une petite liste à curiosité d'aller voir quelques commentateurs de saint Thomas, eux-mêmes considérés comme de très grands théologiens, par exemple Jean de saint Thomas, ou bien Suarez, par exemple, ou bien, j'en oublie encore un là, mais ça me reviendra, enfin les grands, il y a même eu un Français beaucoup plus tard, alors beaucoup beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, qui s'appelait Billuard, mais principalement Jean de saint Thomas, Suarez et Cachetan. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec d'ailleurs des succès divers et puis des accentuations diverses. En réalité, peu à peu, la morale s'est close sur elle-même. Hein? Elle a été coupée de la perspective du salut et centrée sur l'acte. L'acte et la loi. Et là, il y a un nom que je dois donner parce qu'il est majeur et il est c'est le grand fautif à mon avis au XIVe siècle, c'est Guillaume d'Ockham. Alors Ockham, O-D-C-A-M, je crois A-M, il y a deux orthographes. Hein. Guillaume d'Ockham, c'est le fondateur de ce qu'on a appelé le nominalisme, hein, le courant nominaliste. Alors Guillaume d'Ockham a centrer la morale sur l'acte, coupé de la vie salvifique, et sur l'acte et sur les cas. Les commentateurs de saint Thomas, à savoir Jean de saint Thomas, Cachetan, Suarez et plein d'autres, ont développé une morale de plus en plus intellectuelle, de plus en plus juridique, de plus en plus technique, hyper rationalisée, et faisant fi de l'équilibre que saint Thomas avait donné à sa synthèse dans la Somme de théologie. Alors, Guillaume d'Ockham, le nominalisme, Guillaume d'Ockham, c'est vraiment un centrement, un focus, une concentration sur l'acte. avec une théologie d'ensemble, on va dire, qui n'a plus grand-chose à voir avec saint Thomas. Hein. Même si c'est le problème des grands commentateurs de saint Thomas, c'est qu'ils se disent thomistes, mais qu'ils se sont tous éloignés du maître. Hein. C'est vraiment le flagrant. Alors, je vais donner d'autres exemples. Par exemple, chez Occam, quand je dis que la théologie d'Occam, elle est très différente de saint Thomas, elle est très différente de saint Thomas parce que c'est une conception on pourrait dire de. Alors, il faut pas non plus être trop dur avec Occam, hein, c'est aussi une grande théologie. Hein, c'est la théologie de la liberté de l'homme. Et même, on pourrait dire, de son autonomie. Hein, beaucoup plus affirmée chez Guillaume d'Occam que chez saint Thomas. Le problème de Occam, c'est que la liberté de l'homme, son autonomie, donc son autonomie d'ailleurs à choisir, c'est-à-dire à faire des choix moraux. Le problème de Occam, c'est que cette liberté se heurte à la liberté de Dieu, à l'autonomie et à la souveraineté de Dieu. Ce qui fait dire à Guillaume d'Occam que Dieu étant souverainement libre, il pourrait pratiquement se débarrasser de sa créature. C'est-à-dire que même la liberté de l'homme, la souveraineté de l'homme n'est rien devant la souveraineté de Dieu. Donc c'est un combat inégal, on va dire. Hein. Mais bon, c'est une théologie qui a sa grandeur, mais qui centre la morale sur l'acte et sur la loi. Hein. C'est d'ailleurs de Guillaume d'Occam que... et puis d'autres dont je parlais maintenant, que s'installe progressivement ce que j'ai cité l'autre jour en répondant à une question, à savoir la casuistique. Hein, c'est-à-dire que là, à partir du moment où on choisit, on pose des actes, qui est-ce qui pose un acte ? Et qu'on est obsédé, pardonnez-moi, par les actes. Qui est-ce qui pose un acte? C'est la personne. Et c'est même une personne en particulier. Donc, un cas. Alors, les moralistes hein, vont se mettre à étudier les cas moraux, l'étude des cas, la casuistique. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus du tout se soucier du bonheur en Dieu, ils ne vont plus du tout se soucier de la Trinité, ils ne vont plus du tout se soucier de la miséricorde. Ils s'en fichent complètement, si tu veux. Hein. On se demande même s'ils se soucient encore de l'Évangile, si je caricature à outrance. Hein. Mais l'obsession devient les cas moraux, agir selon le bien, agir en conscience, c'est la naissance des éthiques de conscience, on agit en conscience, alors la grandeur de la conscience, c'est quelque chose, on ne va pas non plus cracher dessus en disant « oh là là !» Non, on affirme la conscience libre, quitte à se dresser devant Dieu d'ailleurs, mais la conscience libre qui pose, qui choisit moralement selon le bien ou pas selon le bien. Bon. Alors, Guillaume d'Occam, les études de cas, donc c'est la naissance des études de cas, c'est la naissance de la casuistique, hein. Alors, donnons quelques exemples de casuistique. De quoi s'agit-il, l'étude de cas et il s'agit de... Donc, nous sommes déjà dans les éthiques de la conscience. Tu vois, on n'est plus du tout dans les éthiques de la vertu. Mmh. Vertu, on s'en fiche. Hein. Maintenant, on s'en fiche. On fait des cas. D'ailleurs, si je caricature à outrance, travailler sur des cas moraux, on n'a pas besoin de Dieu pour ça. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que le don de Dieu, la grâce de Dieu ne change plus, pratiquement plus grand-chose, si tu veux. C'est ça le problème de l'étude de cas, c'est que, oui, on peut la faire en contexte séculier. Plus besoin, on peut participer à des comités d'éthique. Hein. Dieu ne change rien à l'affaire. La miséricorde ne change rien à l'affaire. C'est la limite, si tu veux, du système. Alors, je prends quelques exemples. Il y a un grand théologien dominicain, d'ailleurs, qui s'appelait Medina, M-E-D-I-N-A, Medina, théologien dominicain, oui, Medina, qui a, Barthélemy, si ma mémoire est bonne, de Medina, Medina a fondé une, école, parce que alors il y a un tas d'écoles qui vont se mettre, un tas d'écoles de théologie morale, qui vont se mettre en ébullition, hein, 15e, 16e, 17e siècle, à partir du 15e surtout. Donc c'est Médina, qu'on appelle le probabilisme, courant de théologie morale qu'on appelle le probabilisme. C'est quoi le probabilisme ? Je vais faire un anachronisme très tendance du grand feuilleton de la pandémie, à savoir l'hydroxychloroquine. Hein ? Et on va voir le professeur Raoult et Marseille. Bon. On va voir que tout ça, parce que l'éthique de la santé, c'est largement des éthiques comme ça, hein, de la conscience. Hein. La conscience du praticien, le malade qui accepte un traitement ou pas. Médina fonde de probabilisme. Dans probabilisme, il y a probable. Alors, on va donner un exemple très simple. Voilà. Donc, l'hydroxychloroquine, il est probable que ça marche. Donc, si on dit qu'il est probable que ça marche, en conscience, le médecin peut la prescrire, même s'il n'est pas tout à fait sûr. C'est-à-dire, on n'a pas le résultat de toutes les études, c'est préliminaire, mais on est très malade, il n'y a pas d'autre traitement, il est probable que ça marche, donc en conscience morale, le médecin prescrit le médicament ou le patient demande le médicament. Ça, c'est un vrai débat de conscience, hein, parce que on n'est pas sûr que ça marche. Et il y a tout un tas de médecins qui vont dire ça marche absolument pas. Mais se décider selon la probabilité, c'est un choix moral parfaitement justifiable. D'ailleurs, entre parenthèses, les médecins, par exemple, qui refusent l'hydroxychloroquine, ils n'agissent pas selon la probabilité. Il leur faut plus en morale que la probabilité. Ils ont raison. Ils ont raison en ce sens qu'à l'époque de Médina, donc, vous voyez, c'est ça, hein, d'autres écoles vont naître pour traiter les cas de conscience. Hein. Par exemple, une école alors, dont on a qui a donné un mot en français, qu'on utilise tout le temps sans savoir ce que c'est, le laxisme. Alors, c'est une autre école de la conscience. Quand on dit en français familier « je suis laxiste », ça veut dire je suis dans le laisser-aller délibéré. C'est le niveau le plus bas communément, c'est le niveau le plus bas du choix moral. Mais quand cette école a été fondée, c'était pas du tout ça qui les caractérisait. Hein. Ça veut dire qu'être laxiste, c'est déjà une position morale. C'est-à-dire, il me suffit de pas grand-chose, je suis laxiste, mais cette position-là, elle n'est pas hors du choix de la morale, c'est déjà une position morale. Autre école, alors j'ai donné le mot de probabilisme, une autre école légèrement différente a été fondée aussi, qu'on a appelée le probabiliorisme. Probabiliorisme avec le comparatif latin ior, ça veut dire il faut que ce soit plus probable. Donc quand tu organises un cas de conscience, tu fais appel à tes moralistes préférés selon, il faut se mettre dans le cadre du 17e, 18e siècle, hein, c'était une guerre entre théologiens et moralistes, il y avait les laxistes, les probabilistes, les probabilioristes qui demandaient un niveau de preuve, on va reprendre l'exemple de l'hydroxychloroquine, hein, qui demandaient un meilleur niveau de preuve avant de se décider, probabilioristes. Hein. Et puis, il y avait une dernière école qu'on appelait les tusioristes, T-U-T-I-O-R, et c'était tusior, hein, du latin tusior. Ça veut dire, c'est ceux qui veulent le meilleur, hein, le plus haut niveau de preuve avant de se décider. Hein. Et sinon pas ce plus haut niveau de preuve, eh bien, le choix posé ne sera pas moral. Donc, si on prend le débat sur l'hydroxychloroquine, c'est un très bon débat pour comprendre ce que c'est que les éthiques des études de cas, si tu veux. Alors, on les a au 20e, au 21e siècle, hein, mais depuis Médida jusqu'au 18e, donc ça a couru pendant des siècles, hein, c'était la guerre des écoles d'éthique de la conscience. Donc, tu vois, cette guerre qu'on a sur les plateaux de télé, BFM et tout ça, hein, entre les médecins qui sont pour ou contre, ça n'a rien d'original, hein. C'est vraiment la guerre des éthiques de la conscience. Mais je fais remarquer que en faisant ça, on est très loin de la synthèse de saint Thomas. Personne ne s'intéresse plus au bonheur. C'est au bonheur, à la vie en Dieu, l'évangile, la miséricorde. C'est bon pour les prédicateurs, ça. Donc, tu vois, on est très très loin des pères. On ne se soucie plus de commenter l'Écriture. On ne se soucie plus d'abord de comment dire, de prêcher. Hein. On organise des débats d'éthique de cas qui seraient des débats qu'on retrouverait aujourd'hui dans les comités d'éthique, en disant à la fin, il faut arriver à un consensus, il faut arriver à un compromis. Voilà, c'est ça. Hein. Que dire encore qui soit utile et que j'aurais oublié? Oui, il y a un petit exercice pratique qui serait intéressant à faire peut-être avant la prochaine nos prochains échanges avec nos camarades des deux groupes. Hein. Il y a un petit exercice que je leur recommanderais bien, c'est tout simplement de prendre le catéchisme de l'Église catholique, celui que Jean-Paul II avait publié. Hein, et d'aller voir, alors il y a la version abrégée, mais nous sommes des grands, on peut aller voir la version pour adultes, si j'ose dire, et de regarder dans le catéchisme la partie morale, et de voir comment elle est organisée et selon quels principes. C'est-à-dire, j'ai quand même décrit des styles différents, c'est le moins qu'on puisse dire, de théologie morale. J'ai parlé de la morale des vertus, j'ai parlé de la morale des cas, de la morale de la conscience, de la place de la liberté. Quels ont été les choix intellectuels qui ont présidé à l'organisation de la théologie morale du catéchisme, hein? Je donne juste une clé, notamment. Ce qui va être très important dans le catéchisme, c'est de voir comment le catéchisme parle de l'acte moral. Quelles sont les caractéristiques de l'acte moral et que penser de ce que le catéchisme nous dit de l'acte moral. C'est important de faire l'exercice. On pourrait le faire pour les encycliques. C'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long. Il y a des dizaines de pages. Bon, et puis on ne les a pas forcément à portée de main. Mais le catéchisme, qui est le texte de référence, comment est organisé et comment est présenté et quelles sont les questions que suscite la morale de l'acte humain? Parce que il est bien question, en effet, dans le catéchisme, d'une morale de l'acte humain. Voilà, alors, il ne s'agit pas, là encore, idéalement, il ne faudrait pas opposer la morale de saint Thomas et puis la morale telle qu'elle s'est développée jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. Mais enfin, on a quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, des accentuations extrêmement différentes. La morale des cas, la casuistique, celle dont nous héritons aujourd'hui, c'est-à-dire y compris dans les éthiques sécularisées, n'est-ce pas, affirme la grandeur de la liberté humaine. Donc c'est magnifique. La grandeur de la conscience humaine, du sujet humain. Hein, c'est-à-dire que toute la modernité centrée sur le sujet autonome, elle a son origine dans ces morales-là. Donc c'est un héritage splendide, mais ça n'est plus le monde, on va dire au sens très large, médiéval, ni le monde des pères, dont le souci exclusif, c'était je viens de Dieu, je retourne à Dieu, et pour retourner à Dieu, j'essaye de mener une vie morale. Bon. Si je force le trait, on pourrait presque dire les morales tardives, pour moi c'est tardif, n'est-ce pas, qui étudient les cas et qui, à force d'étudier les cas de conscience, les drames de la conscience, les drames intimes de la conscience, n'ont plus besoin de Dieu pour apporter une solution. La grande difficulté des morales de la conscience, c'est que ou des cas de conscience, c'est que pour résoudre les cas de conscience, Dieu est mis sur un strapontin. Il est de plus en plus évacué de la réflexion, hein, où il est réservé à la métaphysique, mais on n'a plus besoin de lui pour délibérer en conscience. C'est la source même des éthiques d'aujourd'hui qui se sont évadées de Dieu et qui se sont évadées d'ailleurs très commodément depuis le XIXe siècle, hein, avec Nietzsche, Marx et Freud, c'est-à-dire vraiment avec l'athéisme, on va dire, militant, ou l'athéisme philosophique et idéologique qui a... Bon, c'est, voilà. Voilà ce que je voulais dire dans cette nouvelle capsule que nous allons proposer à nos amis des deux groupes. Hein. Et puis, je propose, moi, comme petit travail pratique, si vous avez un catéchisme sous la main, ou même en cherchant d'ailleurs sur Internet tout simplement le catéchisme, hein, regardez un petit peu comment est structurée la partie morale et ce qui concerne l'acte humain. Parce que, en fonction de ce que vous aurez trouvé, j'aurai encore des choses à vous dire sur l'acte humain lui-même. D'accord. Parce que c'est le cœur du dispositif du catéchisme de l'Église catholique, et même c'est le cœur du dispositif des encycliques contemporaines, hein, notamment de Jean-Paul II. Voilà.